Bonsoir et bienvenue dans cette émission. 100 jours du gouvernement Samalou Kondé, c'est hier mercredi 4 août que l'actuel gouvernement a fêté ses 100 jours depuis son investiture par l'Assemblée nationale. En 3 mois de fonctionnement, ce gouvernement des 56 ministres, dont 27 femmes, a surtout été confronté à la gestion de l'éruption du volcan Nyiragongo et à la mise en place de l'état de siège au Nord Kivu et à Nouturi. Au sujet de l'amélioration des conditions de vie des populations, beaucoup reste encore à réaliser, même si le gouvernement Sama a déjà annoncé une baisse des prix des produits de première nécessité pour les jours à venir. Quel bilan dresse le gouvernement Sama sur le plan social depuis son investiture et que doit-il faire pour améliorer efficacement les sociales des Congolais? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et nous recevons professeur Jean-Claude Tshilumbai. Il est député provincial et cadre de l'UDPS, c'est parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonsoir professeur Jean-Claude Tshilumbai.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir auditeurs de Radio Capi.
André Tambwe Katamwe, député national et cadre du PPRD, parti membre du Fonds commun pour le Congo FCC en cible. André Tambwe, est-ce que vous êtes là? On me dit qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Bonsoir, professeur Dadi Salé.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à un dialogue entre Congolais, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiocapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages un numéro de téléphone par lequel nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
En présence du chef de l'État, tous les membres du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs personnalités des institutions de la République ont pris part à la messe d'action de grâce sollicitée pour les 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Elle a eu lieu hier mercredi au jardin des premiers à la primature. Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre a rendu grâce à Dieu pour avoir guidé son équipe au cours des 100 premiers jours de son exercice. Il a remercié les célébrants de la messe pour les sages conseils leur prodigués et rassurer que l'action de son gouvernement va se focaliser sur le terrain, sur la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez cet extrait de son allocution proposée par Pélé Kipelamondo.
Au-delà de tout, nous ne devons pas oublier ce qu'est notre mission la plus loyale. C'est celle d'être au service du peuple congolais. Nous prions et nous disons qu'avec cette sagesse nous souhaitée de Salomon, nous saurons accomplir cette tâche selon les attentes du peuple congolais. C'est aussi l'occasion de nous souvenir de nos compatriotes qui sont dans des zones en conflit et qui souffrent en ce moment, pour qu'ils sachent que nos pensées vont vers eux. Nous avons fait une évaluation de notre travail parce que nous avons ce besoin de redevabilité en tant que gouvernement. Et au sortir du séminaire que Son Excellence Monsieur le Président de la République a bien voulu clôturer, il y a de cela quelques jours, le gouvernement sort plus déterminé à accomplir son devoir tracé à travers le programme du gouvernement tel qu'énoncé par la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous voulons notre action beaucoup plus sur le terrain.
Professeur Jean-Claude Tshilumbai, je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. 100 jours après l'entrée en fonction du gouvernement Samalou Kondé, qu'est-ce que l'on peut dire du bilan de ce gouvernement sur le plan social? En fait, je vais être très précis, hein, quand on parle du social, et tout de suite, on voit les pouvoirs d'achat de la population. Et comment vous percevez ces pouvoirs aujourd'hui? Comment vous jugez ces pouvoirs aujourd'hui? A-t-il évolué? A-t-il stagné ou reculé?
Déjà, Guy, vous avez noté les difficultés que le gouvernement du Premier ministre Samalou Kondé a rencontrées d'entrée de jeu avec cette bénédiction malheureuse de Nyiragongo, l'éruption. Mais il faut déjà féliciter cette fois-là des efforts fournis par ce gouvernement de manière tout à fait spontanée, alors que tout le monde était concentré sur la question précise des états de siège pour tenter de voir comment nos compatriotes devraient vivre en paix par rapport à la question d'ordre militaire. Et la gestion de la crise de Nyiragongo a été une démonstration que c'est réellement un gouvernement comme on l'a qualifié de warrior, parce que c'est vrai qu'avec autant de difficultés, mais nos compatriotes se sont réellement sentis assistés, ça c'est une évidence. Mais malgré cela, on peut déjà noter qu'au plan social, la gestion elle-même de l'éruption du Nyiragongo est une démonstration du grand souci que le chef de l'État a imprimé sur ce gouvernement pour que notre population sente qu'il est de plus en plus proche d'elle, mais aussi ce gouvernement a démontré que les méthodes utilisées sont celles différentes par rapport à toutes celles qui avaient été utilisées jusqu'ici dans des circonstances similaires. Donc il faut déjà l'en féliciter. Mais de l'autre côté, il faut noter des grandes avancées parce que le social de la population, on le fait avec de l'argent, déjà noter des prouesses en matière de mobilisation des recettes, grâce notamment à la patrie financière décrétée par l'IGF sous l'impulsion du président de la République, et que à ce jour, nous avons assisté pour la toute première fois. Moi, je suis né d'un parent enseignant qui a passé toute sa vie dans l'enseignement, pratiquement 50 ans. Il est mort comme il a vécu, il n'a pas reçu un seul franc de pension comme on le vit aujourd'hui. C'est vrai que j'ai suivi beaucoup de critiques de ce point de vue-là, des gens qui disent 2 500 $ c'est peu, un congélateur c'est rien, mais qu'est rien, il y a là une preuve que quelque chose d'extraordinaire a commencé. Donc sur le plan social, c'est une démonstration également de la volonté mais aussi de la détermination du gouvernement du Premier ministre Samuel Kondé sous l'impulsion du président de la République de montrer aux Congolais que désormais ils sont la priorité de la gouvernance.
Vous relevez des avancées, quelques avancées que vous notez, mais je crois que c'est ça aussi la perception de beaucoup de gens. Ces avancées devaient se refléter à travers les pouvoirs d'achat de la population. Et je vous ai posé la question de savoir comment vous jugez ces pouvoirs d'achat. Est-ce qu'il a, il a évolué, il a stagné ou il a reculé?
D'abord, dites-vous que ça dépend de ce qu'on peut entendre par pouvoir d'achat. Et il faut déjà noter pendant les 100 jours que la monnaie est restée stable et que les prix sont plus ou moins stables sur le marché, qui démontre que le pouvoir d'achat de nos compatriotes est tout de même lui aussi stabilisé. Mais le pouvoir d'achat, il vient de deux facteurs généralement. Soit de l'amélioration de conditions salariales, dans l'hypothèse où il y a hausse de salaire, mais aussi de la stabilisation de la monnaie pour que la valeur de salaire de ceux qui reçoivent du trésor leur dû reste la même ou se consolide. Ça, au moins, ça a été une réalité. Mais aussi, là, vous avez noté ce que le Premier ministre a dit hier, en l'occurrence, la baisse de prix des billets et les efforts entrepris à ce jour pour que soit obtenue une baisse drastique de vivre des premières nécessités. Et c'est ça, du vrai social que nos compatriotes attendent réellement du gouvernement.
Lorsque vous parlez de cette question des baisses des prix, hein, il y a eu des annonces importantes qui ont été faites, notamment cette question des baisses prochaines, n'est-ce pas, des prix des produits de première nécessité. Une annonce qui a suscité beaucoup d'espoir dans la masse, dans l'opinion, malheureusement, elle a produit des effets néfastes. Au lieu que les prix baissent, cette annonce a plutôt entraîné une hausse considérable des prix, même si vous venez de parler de la stabilité des prix, les prix ne sont pas stables, hein, il y a eu une hausse considérable des prix. Et alors, les gens n'arrivent pas à comprendre, est-ce une démagogie ou alors une certaine précipitation dans l'annonce de certaines décisions?
Non, vous savez, Guy, les Congolais le savent déjà, Félix Tshisekedi est tout sauf démagogue. Lui, il avait promis la gratuité de l'enseignement dès le début de son mandat, en l'absence de rien. Elle est en train d'être une réalité absolue, malgré les difficultés qu'elle a connues au départ. Aujourd'hui, on a parlé de la baisse du prix des billets d'avion. C'est une réalité en train d'être vécue. Les décrets du PMS ont été signés. Et que la surenchère qui tente de mener certains opérateurs et économique à l'annonce de la baisse de prix des vivres de première nécessité n'est qu'un exercice inutile de chantage. Ce qui est évident, c'est que c'est une décision prise et le chef l'assume. Elle va aller jusqu'au bout. Les prix des denrées de première nécessité, notamment les surgelés, vont absolument baisser. Il n'y a pas de démagogie à envisager par rapport à cette réalité évidente. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de savoir que des décisions des politiques publiques et des politiques qui ont daté de très longtemps, parce que dans tous les États voisins ici, ce n'est pas ça la réalité, c'est que ces gens qui sont organisés pour exploiter cette population sont aussi organisés pour sécuriser leur mafia, mais la décision du gouvernement ne va pas reculer pour cela. Les efforts sont en place et comme lui-même, le Premier ministre l'a promis, dans les tout prochains jours, des arrêtés seront signés également sur la question relative au vivre frais et que nos compatriotes pourraient se retrouver dans cette décision ô combien salvatrice qui n'a pas existé il y a plusieurs années.
Voilà, prenons un autre secteur, hein, c'est celui de l'éducation. Certainement que vous allez essayer de mettre en exergue la gratuité de l'enseignement de base et qui a été saluée par beaucoup de gens, mais qui c'est aussi reconnu par les mêmes personnes, hein, qui a beaucoup de faiblesses. Quelle évaluation vous faites de la mise en œuvre de cette réforme importante, la gratuité de l'enseignement, professeur Tchoumbaï?
Vous savez, des pays qui ont des réserves, des matelas moelleux, des réserves en devises très importantes lorsqu'ils ont voulu révolutionner leur société avec ce genre de réformes. Nous en avons vu aux États-Unis avec Barack Obama. Sur 8 ans, il n'a travaillé que sur l'Obamagate et qu'après les 8 ans, ça n'a pas été parfait. Mais que dire d'une société exsangue comme la nôtre? Nous sommes restés pendant 40 ans à ne rien faire et que lorsqu'on prend une décision comme celle-là, il faut être totalement naïf pour penser qu'elle ne ferait pas de casse. Il devait y en avoir. L'essentiel, c'est que l'on tourne cette page honteuse d'un pays qui devrait vendre l'éducation de base à ses enfants et les tourner, absolument tourner. Et maintenant, il faut travailler à des améliorations substantielles pour que cette question passe loin derrière nous et que la qualité de l'enseignement soit maintenue ou améliorée, mais aussi que les conditions de vie des enseignants, moi-même, je suis enseignant, je suis un professeur à l'université Kinshasa, je connais le calvaire que l'enseignant a vécu ou que l'enseignant vit depuis bientôt près de 40 ans dans ce pays, et que ce qui est en train d'être fait, c'est tout à fait extraordinaire. Les gens peuvent, pour des raisons d'idéologie et d'intérêt politique, tenter d'ignorer cela, mais les évidences sont telles que nous sommes en train aujourd'hui de les vivre. Le pouvoir d'achat, c'est aussi cela. Lorsqu'un parent économise les 1000 dollars qu'il devait verser à l'école x5, x6, x7 pour ses enfants et qu'il peut les réinvestir dans un autre domaine productif pour le bien-être familial, c'est ça aussi le pouvoir d'achat, c'est ça aussi le social. Les gens ne peuvent pas faire semblant cela.
Parmi les attentes par rapport au gouvernement Sama, il y avait cette autre question d'amélioration du climat des affaires. 100 jours après, pourquoi il n'y a toujours pas d'action concrète visant, n'est-ce pas, à améliorer l'environnement des affaires dans ces pays? Aucune réforme n'a été initiée. Comment vous expliquez cela, professeur Tchoumbaï?
Lorsqu'on dit climat des affaires, moi je vois plus ou moins quatre secteurs ou quatre facteurs importants. Le climat des affaires, c'est avant tout qu'il y ait une justice solide dans un État, parce que rassure les opérateurs économiques, il faut qu'il y ait une assurance libre et libéralisée. Le climat des affaires, c'est qu'il faut qu'il y ait la sécurité dans un pays, parce que ceux qui viennent investir ont besoin essentiellement de cela. Que l'on dise cette fois-là qu'il n'y a pas de réforme, qu'il n'y a pas d'initiative pour améliorer le climat des affaires, alors qu'un état de siège a été exactement décrété pour que l'on stabilise l'intégralité de notre territoire national pour permettre à ceux qui investissent dans le secteur des affaires de pouvoir le faire en toute liberté et que l'on baisse les billets, le prix des billets des avions pour permettre à ce que les personnes circulent librement avec leurs biens, entre autres. Et comment on peut dire qu'il n'y a pas de réforme en matière du climat des affaires? Le climat des affaires, ce n'est pas une baisse ou une stabilisation des prix à la soviétique, mais c'est plutôt que l'on mette en place un cadre qui puisse permettre à ce que ceux qui opèrent dans le secteur économique s'épanouissent et qu'ils permettent à ce que les biens circulent librement et les personnes et que leurs biens soient sécurisés, notamment par la mise en place d'une justice solide et impartiale. Ça c'est en train d'être fait et le président de la République l'a promis. Ce qu'on entend par réforme, c'est pas des mises en place. Les réformes ont été déjà faites.
Merci.
Les lois, nous les avons. Maintenant, le problème, c'est que il faut être en train de faire ce qui doit être fait pour que ces lois s'appliquent. Nous sommes là dans le domaine de lutte contre la corruption. Le travail fait par l'IGF. Et c'est aujourd'hui que beaucoup de gens apprennent que l'IGF existe dans ce pays. Tout ça, c'est dans l'objectif précis d'améliorer le climat des affaires pour que l'investissement vienne et s'épanouisse et que nos compatriotes accèdent à l'emploi.
Merci. André Tamwe Katamwe, est-ce que vous êtes là?
Je suis à votre écoute, monsieur.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, je rappelle que vous êtes député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Et quel bilan vous faites du gouvernement Sama Lukonde sur le plan social 100 jours après son investiture?
Le bilan que je fais, je pense que c'est le bilan que tous les Congolais ont unanimement fait. C'est celui d'un échec criant. Le gouvernement Sama Lukonde a donné beaucoup d'espoir au peuple congolais à partir du moment où il sortait du contexte où on pouvait trouver dans ce pays des gens qui disaient qu'il y avait un responsable du blocage de la machine politique de ce pays. Ce gouvernement conçu dans le cadre de l'Union sacrée a été investi avec applaudissements et les espoirs de la population étaient grandement ouverts. Bizarrement, 100 jours après, d'aucuns Congolais constatent la léthargie totale sur tous les plans. Sur le plan sécurité, un échec cuisant. Aujourd'hui, on nous apprend qu'à Beni, l'opération Kamikaze, qu'on voyait toujours en Afghanistan, en Iran, est entrée au Congo. Par quelle porte? Donc, tous nos services de sécurité sont presque en somnolence. Sur le plan économique, mais le cadre macroéconomique ne se limite pas aux approximations des données spéculatives. Il doit être concrétisé dans le vécu quotidien de la population, notamment dans le social. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut être fier d'avoir un gouvernement qui ne répond pas au panier de la ménagère? Aucun. Donc, le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat de la population étant en dégringolade, il n'y a aucun succès qu'il faut attacher sur le plan social à l'action du gouvernement Sama Lukonde. Donc, le social est absent, la sécurité patauge, l'emploi. Il n'y a aucun emploi qui a été créé. Au contraire, le gouvernement est en train d'en supprimer. Les cas, j'ai entendu le professeur que j'ai salué en passant, en train de se démener pour trouver une explication au programme de gratuité. Mais c'était un programme génial inscrit dans notre constitution, mais mal interprété, mal traduit, mal décrit. Voilà comment il aboutit aujourd'hui à un crime d'État contre l'éducation nationale parce que le niveau de l'éducation a baissé. Et même la prise en charge des parents qui était formelle, qui permet une certaine régularisation. Aujourd'hui, elle est informée parce qu'aucun enseignant ne se contente du peu que l'État alloue à son compte.
André Tamboué, pourtant, oui. Le professeur Tilumbay, lorsqu'il il a fait son bilan à lui, hein, il a relevé certaines avancées. Et il parle notamment de la gestion de la catastrophe de Nyiragongo. Il parle du travail de l'IGF hein, qu'il met en exergue. Il évoque également la stabilité de la monnaie.
Non, d'abord, je commence par la gestion du séisme à Goma. Mais ça a été une gestion qui a fait afficher au grand jour l'incompétence de notre équipe gouvernementale. Vous avez vu que pour le même phénomène, nous avons eu plus ou moins 4 missions de travail d'un lot, un lot important de membres du gouvernement, du Premier ministre et puis après du Président de la République, mais pour ne rien faire. Jusqu'au moment où nous parlons, on n'a pas encore commencé à déblayer les coulées de lave à Goma. Jusqu'au moment où nous parlons, combien de gens ont été indemnisés et à quelle hauteur pour ceux qui sont des victimes? Combien de gens ont été assistés et à quelle hauteur? Non, c'est une catastrophe. On a vu les ministres sont allés faire la promenade et il y a eu des déclarations à perte de vitesse. Et vous avez vu, même le ministre de la Recherche scientifique a été interpellé à l'Assemblée nationale autour de l'impayement dans l'observatoire volcanique que nous avons à Goma. Donc c'est une gestion catastrophique qui a affiché à nu les compétences de notre gouvernement. Et lorsqu'on parle de l'IGF, comme étant aujourd'hui en train d'exceller dans la patrouille financière, mais en réalité, c'est une police secrète à la recherche des adversaires politiques pour les éliminer aux échéances prochaines. Qu'est-ce qu'on peut dire des dépassements budgétaires à la présidence? Parce que l'IGF est un service d'appoint à la présidence. Ce n'est pas un parquet financier. On accorde aujourd'hui à des OPJ à compétences restreintes le pouvoir de passer dans les médias et de contrôler toutes les institutions du pays. C'est un scandale. Ça n'a jamais existé. Au lieu de renforcer les parquets, renforcer la Cour des comptes, les rendre autonomes et réellement indépendants pour que des enquêtes sérieuses soient menées, nous, on se contente de prendre des acolytes, on leur confie des missions ciblées sur des personnes ciblées pour que celles-ci réussissent les planifications politiques. Ça n'a rien à voir avec un certain succès.
On sent aussi, une certaine réticence pour relancer l'activité économique. Hein. Pas toujours des politiques réaliste pour promouvoir la production nationale, aucune réforme pour assainir le climat des affaires, et même si le professeur Chilumba a parlé de la justice, il a parlé des assurances libres et généralisées pour affirmer que le climat des affaires est une réalité aujourd'hui, mais il y a également cette absence de projets pour améliorer les infrastructures. Et comment vous comprenez ces hésitations de la part du gouvernement Samalou Kondé? Et pourtant, lorsque vous suivez les discours des membres du gouvernement, vous sentez qu'il y a une certaine bonne volonté, mais sur le plan pratique, sur le plan des faisabilités, il y a beaucoup d'hésitations. Comment vous expliquez cela?
Cela ne peut s'expliquer qu'en se basant sur l'origine du gouvernement Samalou Kondé. C'est un gouvernement composite où on a rassemblé des gens à la va-vite, sans idéologie, sans programme commun, ramassé de tous les partis politiques et rachetés, débauchés, et qu'ils ont voulu créer. Quand on a vécu dans l'opposition, on n'a plus à se poser des questions sur les problèmes de la population. On vient directement résoudre ces problèmes. J'ai entendu le professeur parler de la baisse des prix, mais ce ne sont que des annonces qui gênent. Aujourd'hui, tous les Congolais sont fâchés. Qui paye un billet d'avion de moins de $250 au Congo ici? Moi, chez moi, pour aller au Sankuru, je dois au moins $700 aller-retour. Même pour aller à Lubumbashi, qui paye moins de $500? C'est faux. Les baisses de produits suggérés, mais c'est encore de la spéculation. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, on nous vend même les ongles des poulets à Kinshasa. Ça veut dire que le pays est de plus en plus dans la misère. Il n'y a rien. Et le climat des affaires, le chef de l'État lui-même a dit lors de son interview qu'il ne se rendait pas compte du degré de la corruption. Il est même en train de penser, de prédire qu'il pourra laisser le phénomène en train de prospérer dans ce pays. C'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que le climat des affaires n'a pas été assaini et qu'à jamais nous ne pouvons attendre sous ce régime des investissements sérieux. Autrement dit, c'est ça. Vous ne trouverez pas dans l'état des sièges une raison. L'état de c'est un mécanisme qui accouche aujourd'hui de la souris. Donc ça va encore décourager davantage la donne de sécurité, ça va décourager les investisseurs.
Merci,
en train de tourner en rond sans vous avancer.
Merci, professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. 100 jours après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, quel bilan vous faites de son action sur le plan social?
Je pense, sans pour autant répéter un peu tout ce que le co-débatteur vient de dire, je pense que le bilan est mitigé. Mitigé pourquoi? Tout simplement que certes qu'il y a certaines actions sur terrain, mais comme le premier ministre lui-même venait de le dire, il a dit ceci, ils veulent maintenant se tourner plus sur le terrain. Donc je pense que le premier ministre lui-même vient de reconnaître qu'il a reconnu hier qu'il n'était pas vraiment tourné vers le terrain, vers la population, vers les sociales de la population. Et dans les sens statistiques budgétaires, c'est prouvé, c'était plus des institutions, la présidence, les gouvernements, le parlement, qui consommaient les gros du budget. Donc, je pense que nous pouvons, sans l'éviter, dire que le résultat, et c'est 100 jours, est mitigé. Mais cela étant, on encourage certaines actions que je peux appeler actions disparates. Un peu, un ministre peut-être déçu, il fait une bonne action, oui, un peu comme ça tombe dans la sauce, quelque chose qui tombe dans la sauce, mais c'est une bonne action. Comme par exemple les retraites, que le professeur venait de parler, ce sont des actions un peu disparates et je peux les résumer en disant que quand on va à l'école, d'habitude, c'est difficile de pousser à avoir quelqu'un qui est à 0%. Vous pouvez avoir 10%, 50%, 70%, 80%. Donc, dans les sens statistiques, je pense que le gouvernement n'a pas plus de 30% par rapport à lui-même. Parce qu'il faut noter que le gouvernement, comme certains viennent de le dire, a donné de l'espoir. Et nous pensions que, avec la philosophie du président de la République, le peuple d'abord, c'est-à-dire que tout devait être tourné vers d'abord l'intérêt direct. Je précise, pas l'intérêt indirect de la population. Donc, on devait se tourner vers l'intérêt direct de la population. Ça devait se faire sentir, vous l'aviez vous-même dit, par des réformes, par un peu changer de boussole. Donc, pratiquement changer de direction par rapport aux habitudes d'avant. Mais je pense juste que là, il n'y a pas une rupture. Il n'y a pas une rupture, c'est-à-dire quoi? Le constat est clair. La mauvaise gouvernance semble toujours être plus en plus. On semble, comme je venais de le dire, que le budget semble être consommé comme avant d'ailleurs. On a plus de 1000%, 2000%, et ça n'interpelle pas grand monde. On a presque pas d'investissement direct dans la population, dans les sens budgétaires, surtout par rapport à la lutte contre la pauvreté, qui est un des credos du président de la République. Et il faut bien noter que c'est une des politiques de développement. Mais est-ce qu'on peut dire qu'après 100 jours, quelles sont les actions concrètes de lutte contre la pauvreté qu'on a pu noter?
Et au sujet de cette question qui est d'actualité, la hausse des prix des produits de première nécessité, vous avez dit que le gouvernement Samal Koundé a donné beaucoup d'espoir dans l'opinion, mais on constate une quasi-stabilité du taux d'échange, la monnaie est restée stable pendant un certain moment, mais curieusement, les prix des produits sur les marchés galopent, il y a hausse des prix. Et est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent justifier cette hausse des prix quand on sait que souvent l'élément causal, n'est-ce pas, de la hausse des prix, c'est souvent l'instabilité du taux d'échange. Mais là, on constate une certaine stabilité du taux d'échange, mais les prix sont en train d'augmenter. Comment vous pouvez comprendre cela?
Oui, très simple. Et on peut se référer à la politique macroéconomique qu'avait menée le professeur Matata à l'époque. Et il avait lui-même avoué un peu après, parce qu'on avait conseillé, mais les gens parfois n'écoutent pas. Il y a eu des politiques macroéconomiques, parce que la monnaie est du domaine macroéconomique, la stabilité de la monnaie. Oui, certes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est un peu qu'est-ce qu'on ressort de ça, de cette stabilité monétaire. Est-ce qu'on a des politiques, ça va, économiques, de développement, qui permettent effectivement le social de la population de s'améliorer? Je pense que parmi les meilleurs premiers ministres qu'on a eu, moi-même, je pense qu'on peut citer Matata Mponyo, mais il avait avoué que les sociales étaient presque nulles. Il n'y avait pas grand-chose. Ce qui fait que, déjà, quand vous voyez qu'il y a une hausse des prix, c'est-à-dire qu'on a des mauvaises politiques, quelle que soit la stabilité de la monnaie, à vrai dire, pour être un peu plus cru, pour que les gens me comprennent facilement, les gens ne mangent pas la stabilité de la monnaie. Mais les gens mangent, effectivement, cette capacité, vous avez parlé du pouvoir d'achat, cette capacité à satisfaire à leurs besoins, commençant par les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Donc c'est ça la capacité, quels que soient les revenus. Si vous êtes capable de satisfaire à vos besoins, alors vous avez un grand pouvoir d'achat. C'est ça même la définition de pouvoir d'achat. Donc j'ai la capacité, j'ai les moyens de satisfaire à mes besoins.
Toutes les actions initiées pour lutter contre la corruption n'ont pas suffi pour arrêter les coulages des recettes publiques. Les ONG ne cessent de dénoncer des cas de corruption. Il y a cette question des dépassements budgétaires dans certaines institutions que vous avez relevées. Et ne peut-on pas dire qu'il y a une certaine contradiction entre d'un côté les discours tenus par les membres du gouvernement et les actions entreprises sur le terrain?
Oui, tout à fait. Il y a une grande contradiction, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis, entre guillemets, les indépendances. Beaucoup des gouvernements, ils s'applaudissent. Parce qu'on ne veut pas considérer quels ont été les chiffres statistiques donnés hier par le Premier ministre. Pour dire que voilà quel secteur il y a une hausse, quel secteur il y a une hausse. Oui, c'est vrai, on parle d'accroissement des recettes. Comme je vous ai dit, je peux être d'accord. Mais même si les recettes ont accru, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat ou bien les systèmes de la population s'est amélioré. Les recettes peuvent s'accroître, mais pour maintenant multiplier les dépenses de la présidence, pour multiplier effectivement les dépenses ou bien pour détourner. Donc vous voyez, il n'y a pas cause à effet direct entre l'accroissement des recettes publiques et le pouvoir d'achat. Et pourtant, nous pensons qu'il devait y avoir des causes à effet direct s'il n'y avait pas la corruption qui n'a pas changé. Je l'ai dit indirectement, je pense qu'on a gardé pratiquement le même bouchon, même direction. La corruption, la mauvaise gouvernance, rien n'a changé.
Merci.
Le service, je pense que c'est lui qui dira l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les actions. On est quand même en train d'arrêter les gens où on sent que l'argent disparaît. Donc, je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on confonde les chiffres, les agrégats macroéconomiques et la vie sociale de la population.
Merci.
On peut avoir des agrégats macroéconomiques qui s'améliorent, c'est un peu comme des matelas, mais où les gens ne dorment pas dessus.
Merci.
C'est ça la population.
Merci.
La population continue à être pauvre, comme on ne peut même pas s'imaginer, et malheureusement, les prix ne font qu'augmenter.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion aux auditeurs de pouvoir donner leur point de vue par rapport à cette émission. Ils sont en train d'appeler pour contribuer à ces débats. Et professeur Jean-Claude Tilumbay, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo.
Marie-Paul Awa, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Le bilan des 13 jours du gouvernement semble à l'encontre un négatif. Depuis l'investiture de ce gouvernement ici de l'Union sacrée pour la nation, tout reste au stade d'incubation et à créer des bonnes intentions des membres de ce gouvernement. Force est de constater que le gouvernement Sambalokonde prend le postulat que le gouvernement passé, ce qui est un désespoir total de la population congolaise et qui du reste continue à couper dans la misère. À mon avis, le gouvernement semble doit plus focaliser sur la redynamisation et la refondation de l'agriculture en RDC. Bref, le bilan des 5 jours du gouvernement Sambalokonde est négatif à tous les niveaux de la vie de la population congolaise, au point que le défi à relever sont énormes.
Professeur Jean-Claude Tilumbay, votre réaction?
Oui, Marie-Paul. Dites-vous que ce gouvernement intervient en plein exercice budgétaire. Hein? Les réformes à intervenir devaient tenir exactement aussi compte de ce que la plupart des actions amenées avaient déjà été budgétisées sur proportion du gouvernement passé et que les quelques ajustements faits par le gouvernement Sam-Lukonde peuvent être considérés comme des ajustements d'urgence en cours d'un exercice budgétaire qui n'ont pas tout bousculé, ça il faut le reconnaître, et que tout indique, selon les chiffres qui nous sont au quotidien communiqués, que nous tendons pour la première fois vers un excédent budgétaire. Ça pourrait se réaliser avec la tendance actuelle de mobilisation de recettes. Il n'est pas question d'incubation ou de comparer ce gouvernement au gouvernement passé. Les réalités sont là que c'est un gouvernement qui agit. On ne peut pas négliger des choses aussi importantes qui ont été faites en 100 jours. Je n'ai pas dit à l'honorable Tambwa que les billets d'avion ont baissé. J'ai dit ici que l'arrêté, plutôt le décret du Premier ministre, a été signé. L'honorable Tambwa devrait même en pleurer que de trouver en ça un motif d'autosatisfaction par rapport au gouvernement auquel il a appartenu, lui, ou comme membre de la coalition en tant que tel. Il dit que le billet du Sankourou, Kinshasa Sankourou, c'est 700 dollars, comme si lorsque est parti du pouvoir, il l'avait laissé à 100 dollars. Ils l'ont même laissé à 1000 dollars. Moi, je connais des gens qui, pour partir de Kinshasa jusqu'au Sankourou, ils dépensaient jusqu'à 1000 dollars. Et cela, il doit s'en féliciter, lui. Mais l'effort que le gouvernement Sambalukonde a engagé, c'est exactement que, au bout de 100 jours, l'honorable Tambwa devra payer ce billet-là à 140 dollars.
Merci.
Voilà la réalisation.
Merci,
et ça,
professeur.
Ça rentre en même temps et dans le social et dans l'amélioration du climat des affaires. La baisse du niveau d'études, c'est pas seulement au primaire. Qui a banalisé l'enseignement dans ce pays? C'est exactement la coalition à laquelle le Noir de Tambwa a participé. La transformation arbitraire, la vocation des établissements, l'IPEN, l'IPECAN, tout ça. où l'on forme tout sauf personne. Et aujourd'hui, on peut nous parler de la baisse de l'enseignement comme si, au départ du régime auquel lui a appartenu là, il y avait encore un niveau d'enseignement. L'enseignement était encore où dans ce pays, ça n'a plus existé. On ne peut pas parler de la baisse de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de refonder l'enseignement. L'enseignement, ça n'a plus existé. Et là, ils ont créé, chaque député de la coalition là avait son établissement d'enseignement primaire où l'on trouvait tout un village, les mamans marchaient, tout le monde sont assistants et tout le monde.
Honorable André Tamboué Katamoué, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle une fois de plus de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Henri Kassongo de Kisangani dans la province de la Tchopo. Le bilan est mitigé, mais beaucoup reste à faire malgré quelques signes de bonne volonté. Mais que l'éruption volcanique et l'instauration de l'état d'urgence ne soient pas un bouc émisseur. À mon avis, les gouvernements Samaroukonde doivent beaucoup travailler pour que toutes les promesses faites par les présidents de la République soient réalisées.
Honorable André Tamboué Katamboué, l'auditeur ici nous permet, n'est-ce pas, de commencer à évoquer la deuxième partie de notre émission. Que faire pour que le gouvernement Sama améliore efficacement les sociales des Congolais? Vous avez suivi cet auditeur de Kisangani qui pense que ce gouvernement doit travailler davantage. Est-ce que c'est votre point de vue?
Je salue la réflexion de notre auditeur depuis Kisangani et je partage partiellement son avis lorsqu'il reconnaît que le bilan est mitigé. Mais je ne peux pas non plus ne pas lui dire qu'il n'y a pas de signes positifs ou de signes d'espoir que donne ce gouvernement. Il se contente effectivement du résultat du volcan Nyiragongo qui a été un résultat surnaturel parce que si l'éruption continuait, on allait vivre la catastrophe jamais vécue dans ce pays. Donc ça ne doit pas être un signe de complaisance. Il va mal. Les sociales s'amenuisent, la sécurité se dégrade, il n'y a pas d'emploi, le climat des affaires est totalement nauséabond. Comment expliquer qu'un gouvernement qui était appelé gouvernement des guerriers arrive et commence à tantonner? Quand j'entends de la part du professeur que le gouvernement excelle en tel ou à tel ceci, notamment la retraite et le niveau de l'enseignement, il se moque de qui, monsieur le professeur? Vous vous moquez de qui? Vous parlez d'une coalition à laquelle vous-même vous avez appartenu, les chefs d'État appartenu, et que vous dites que vous avez échoué. Ce que le gouvernement Samaroukonde a réussi, c'est de montrer à tous les Congolais que ce n'était pas le PPRD, ce n'était pas Kabila qui était le blocage de la machine du développement. C'était nous-mêmes, nous qui sommes allés mettre à l'Union Sacrée, pensons bien faire et ne rien faire. C'est ça la vérité.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce gouvernement puisse améliorer efficacement les sociales des Congolais? Les propositions.
On ne peut plus se voiler la face. Aujourd'hui, il faut rentrer dans l'ordre constitutionnel et légal de ce pays. Les institutions ont été raccommodées d'une façon catastrophique et sur base des actions parfois éthiquement impropres. Aujourd'hui, il est devenu temps que le gouvernement ainsi que toutes les institutions de la République sentent la nécessité de créer un cadre de concertation politique qui permettra de redéfinir le mouvement des institutions et permettre à ce qu'il y ait un consensus au niveau politique et sur tous les plans qui permettent à chaque citoyen de participer efficacement au développement du pays.
Merci.
Et partant à l'efficacité de l'action gouvernementale qui aujourd'hui ne peut pas se concevoir autrement parce que l'Union Sacrée lui-même est un format composite incapable de créer la cohésion au sein du gouvernement.
Merci, professeur Dadi Salé. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle une fois de plus. Décidément, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les Boyomé qui ont réagi. Hein, et ils nous appellent aussi de Kisangani dans la Tchopo.
Afrique a aimé le Kumbofé depuis Kisangani. Le stage du gouvernement de Wario NG, largement négatif. L'homme politique congolais est très fort en commerce. On est critique. La réalisation reste une utopie. Sama continue à faire des promesses qui jusque-là n'ont pas d'effet sur la population. Nous constatons là qu'on est capable. Il faut que créer des stations politiques dans les pays. Un gouvernement budgétivore, la gestion de l'état de siège, les grèves sur grèves, pour citer que c'est là. Nous sommes fatigués avec les promesses. Nous voulons un gouvernement réaliste.
Professeur Dadi Salé.
Oui, je pense qu'il n'a pas tout dit.
Allô, professeur Dadi Salé. apparemment il est parti, on va essayer de les rappeler. Professeur Jean-Claude Tshilumbaï, hein, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein, et nous sommes à l'étape, n'est-ce pas, des propositions. Que faut-il pour que le gouvernement Samalou Kondé puisse améliorer efficacement les sociales des Congolais? Il faut reconnaître qu'ils sont là depuis seulement trois mois par rapport à l'énormité de la tâche. Et il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis de ce gouvernement. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce gouvernement puisse améliorer efficacement les sociales des Congolais?
Oui, on est déjà dans une très bonne direction. Stabilité monétaire, stabilité de la balance commerciale, stabilité des prix, il faut le reconnaître, hausse des réserves d'échange, ça c'est du cadre macroéconomique. Au plan du climat, des affaires, comme vous avez dit, à propos des infrastructures, des bases dont nous avons parlé, il y a des projets importants qui sont lancés en vue, les routes sont en train d'être construite pour interconnecter les provinces. La corruption est systématiquement traquée. Vous l'avez appris dans le domaine, par exemple, de la défense nationale. Les officiers militaires qui sont de plus en plus aujourd'hui secoués pour détournement des fonds de la défense. La sécurité, c'est le leitmotiv du projet du président Tshisekedi. Et là, les provinces sont aussi en train d'être interconnectées. Il faut renforcer cet idéal et ce penchant. La baisse du prix des billets permettra à coup sûr le déplacement des personnes, mais aussi la circulation des biens. C'est ça le peuple d'abord. Nous encourageons ceux qui voient des faiblesses de les dénoncer, de continuer de stimuler. C'est ça même le rôle de l'opposition. Le Noir Tambo le joue assez bien. Et je crois qu'il sert déjà la nation en faisant ce qu'il fait là, que de penser aux consultations qui permettraient. Merci. Ou qui permettrait à lui ou à d'autres de venir gérer encore le pays. Non, il fait déjà un très bon travail pour le pays en dénonçant les fragilités et les faiblesses du gouvernement. En 2023, nous serons en concertation.
Merci, professeur Dadi Salé. Vous allez aussi conclure, hein. Donc vous allez, n'est-ce pas, réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous a appelé de Kisangani. Vous allez donner vos propositions pour que les choses puissent s'améliorer sur le plan social. Et vous allez aussi conclure, professeur Dadi Salé.
Donc je disais qu'au royaume des aveugles, le borgne sans roi, c'est comme dit nos deux co-débatteurs, donc ils se font des comparaisons, jusque-là, pratiquement échoué, c'est des mots qu'on doit dire. Donc, je pense qu'on doit repenser les Congos. Il nous faut des politiques un peu plus ambitieuses pour diriger. Et je pensais que, effectivement, le gouvernement des guerriers, c'est ce qu'il devait faire. Un guerrier fait tout, gagner la guerre. Ce n'était pas des à peu près, et comme l'auditeur de Kisangani a dit, il n'était pas beaucoup de promesses. Il va en guerre et il gagne la guerre. Je pense que ce sont des ambitions, là, qui semblent manquer. On est plus dans des rhétoriques plutôt que comme le premier ministre lui a dit. Est-ce que c'est quoi? Ils vont maintenant beaucoup plus être sur terrain. C'est-à-dire qu'il a reconnu, n'est pas plus sur terrain. Il y a un point précis par rapport à notre ministre. Pourquoi est-ce que ça semble être difficile de faire une redistribution équitable? Une redistribution équitable signifie tout simplement que tout le peuple congolais doit voir que le président de la République, le premier ministre, les députés, partout, on se sacrifie pour quand même qu'on puisse avoir, par exemple, un système sanitaire. Parce que je pense qu'on est en train de parler d'événementiels, étudiés, ou bien des petits points. C'est important aussi, mais on doit parler de toute une structure qui est chaotique. Où est-ce qu'on en est avec notre système sanitaire? Vous avez parlé de l'amélioration du climat des affaires. Où est-ce qu'on en est avec le système de guichet unique pour pas coûter tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui n'ont ben, même plus 48 heures? Et soyez déterrés comme certains ministres quand même. Je dis qu'il y a des actions isolées, mais un plan cohérent du gouvernement pour améliorer les sociétés de la population, je ne semble pas le voir et je me pose des questions. Comment?
Merci.
Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas y arriver si on ne prévoit pas des choses qui ne sont pas en place.
Merci, honorable André Tambo Katamwe, votre conclusion?
Je ne saurais ne pas dire que sur le 100 jours du gouvernement, on aurait pu entendre 30 actions déjà réalisées parce que le gouvernement s'est fixé un programme, 345 actions pour les 2 ans et demi qui lui restaient. Alors n'ayant rien fait, nous estimons que le gouvernement a intérêt à matérialiser dès maintenant, mais surtout de créer un climat politique serein. Pas avec des désignations problématiques à la campagne électorale pour hypothéquer les sorts des élections en 2023 et avoir encore des élections problématiques. Ce que nous avons pu voir, c'est que ce n'est en 18 ans Kabila a réussi à gérer avec tous les partis politiques qui sont même aujourd'hui au pouvoir, mais en 2 ans ou même en 6 mois, de la majorité pour le président Félix Tshisekedi, rien n'est capable de se faire, donc Kabila n'a pas été le frein, ni son parti le PPRD, et qu'à la population des tranchées, dans les échanges à venir, nous voulons désormais un changement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci au professeur Jean-Claude Chilumbaï, André Tamwe Katamwe et professeur Dadi Salé. Merci à Alain Ngoy qui a été à la technique. Merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Okapi.